Ils sont chanteurs, danseurs, acteurs, Catherine Ringer, Jeanne Chéral, Charlotte Rampling, Fanny Ardant, 70 artistes réunis jusqu'à demain pour un événement culturel 100% numérique. L'objectif est de récolter des fonds pour la lutte contre le sida. Vous en êtes l'organisateur, Aurélien Bocan, bonjour.
Bonjour Mathilde.
Vous êtes le président d'AIDE, l'association de lutte contre le VIH et les hépatites virales. Est-ce que cette année sous Covid a été une année difficile pour la lutte contre le sida ?
Alors ça a été une année très très difficile parce qu'on a tellement parlé de Covid que moi j'ai eu l'habitude de dire qu'une épidémie en cache une autre en fait. Le Covid a pris tellement de place qu'il n'y avait pas d'autre place justement pour parler d'autre chose. Et chez nous ça a été compliqué puisqu'on on assistait à une baisse des dépistages, une baisse des prescriptions PrEP qui est, vous savez, c'est un nouvel outil révolutionnaire.
On en
parlera tout à l'heure.
Et puis, des baisses vraiment marquantes?
Oui, parce qu'on a quand même vu 10% de dépistage en moins. Forcément, on peut plus sortir, on peut plus aller comme on le souhaitait se faire dépister avant. Mais en même temps, on peut se dire aussi qu'il y a peut-être eu moins d'interactions sexuelles aussi pendant ce temps. Donc, je pense qu'on a pris un peu de retard par rapport à la riposte à l'épidémie. Chose qu'il faut rattraper, d'autant plus que notamment sur la collecte de fonds aussi, on a eu des conséquences assez néfastes par rapport à notre association.
Et cet argent, ça sert notamment à financer la recherche. Et à ce propos, comment expliquez-vous qu'il n'existe toujours pas de vaccin contre le VIH alors qu'un an a suffi pour en développer plusieurs contre la Covid-19 ?
Alors ça, c'est un sujet qui revient assez régulièrement. Je pense qu'il faut partir du principe qu'on est sur deux virus qui sont complètement différents. Le virus du Covid, finalement, c'est un virus assez simple qui est le même pour tout le monde. Le virus du sida, enfin le virus du VIH, c'est un virus en fait qui est hyper malin, qui est hyper résistant et qui a tendance vraiment à muter selon la physiologie des personnes. Donc en fait, la recherche est beaucoup plus compliquée de ce point de vue-là.
Mais est-ce que les progrès scientifiques qui ont été réalisés en un an, donc avec l'épidémie de Covid, peuvent tout de même être profitables à la lutte contre le VIH?
On l'espère, il y a des tests qui sont réalisés actuellement. Alors après, ça va prendre beaucoup de temps. On est en phase 1 aujourd'hui, donc que sur la logique de toxicité. Donc effectivement, c'est une bonne nouvelle pour la recherche. Après, il est encore un peu tôt pour dire si effectivement ce sera utile pour le VIH.
Et donc pour le moment, on ne peut pas espérer qu'un vaccin soit trouvé bientôt?
Non, on ne peut pas dire ça. Ce serait compliqué, ce ne serait pas un service à rendre pour les personnes justement qui vivent avec le VIH.
Alors même sans vaccin, l'ONU SIDA a affiché un objectif très ambitieux, un monde sans sida en 2030. Est-ce que c'est réaliste ?
C'est totalement réaliste parce qu'on a tous les outils aujourd'hui pour y parvenir, que ce soit les préservatifs, la PrEP, le traitement comme prévention, parce que ça c'est très important. Une personne en fait qui vit avec le VIH sous traitement ne transmet plus le VIH. Et ça c'est vraiment le message à retenir, c'est hyper positif.
Ne transmet plus, mais il faut le redire, on ne guérit pas du sida.
Mais on ne guérit pas du sida, effectivement. On n'a toujours pas de traitement qui permet d'en guérir et ni de vaccin, ça c'est évident.
La prévention, est-ce que vous pensez qu'on est toujours suffisamment informé ? Notamment les jeunes.
Alors, oui et non. Oui, parce que on a toujours ces campagnes chaque année, notamment pour les jeunes, mais j'ai envie de dire c'est pas suffisant. Dès qu'on voit l'arrivée des traitements depuis la fin des années 90, début 2000, on voit qu'il y a quand même un rattrapage par rapport au curatif vis-à-vis du préventif. Donc on met plus le paquet sur les traitements, moins sur la prévention. Vous savez, moi je fais partie de cette génération des années 90 où on était systématiquement matraqué quand on était collège ou au lycée. Je pense que ça, on l'a un petit peu perdu, donc il faut revenir là-dessus. Mais ayant dit ça, j'ai pas tout dit non plus, c'est que les jeunes sont pas forcément la cible prioritaire. Mais il faut quand même qu'ils aient les informations de base en termes de prévention. Après, là, il faut mettre le paquet, c'est vraiment sur les populations les plus vulnérables, comme les gays, les usagers de produits psychoactifs, les travailleurs, travailleuses du sexe ou les migrants, qui en fait vivent des discriminations au quotidien, qui les éloignent du soin et de la prévention.
Quel genre de discrimination ?
Alors par exemple, quand vous êtes homosexuel, finalement, c'est un peu compliqué de parler de votre vie sexuelle à votre médecin généraliste. On a tous une vie sexuelle, mais c'est pas forcément facile d'en parler. Le problème en fait du VIH, c'est que ça tourne essentiellement autour de la sexualité. C'est la même chose pour les autres populations dont je vous ai parlé. Et donc forcément, nous, notre logique, c'est de se dire, il faut créer des centres de santé sexuelle qui leur soient dédiés, où ils vont se retrouver entre pairs, qui vont être des lieux très pratiques pour proposer du dépistage, de la vaccination, et puis aussi de la sexo, de l'addicto, ce genre de choses.
Venons-en au PrEP, ce traitement préventif dont on a dit un mot tout à l'heure. Ça s'adresse aux personnes qui n'ont pas le VIH, on est bien d'accord, mais qui risquent de le contracter. Il y a une grande nouveauté depuis le début du mois, c'est l'accès à ces traitements a été nettement simplifié.
Oui, tout à fait. Alors la PrEP, c'est, comme je te disais tout à l'heure, c'est un outil de prévention révolutionnaire. C'est comme prendre la pilule, en fait, finalement. C'est avant d'avoir une exposition potentielle au VIH, parce que on se protège pas toujours et on n'est pas là pour juger les gens. Enfin, si le préservatif c'était l'alpha et l'oméga de la prévention, ça fait longtemps qu'on ne parlerait plus de VIH. Mais du coup, ça permet de compléter en fait avec cet outil-là. Mm-hmm. Donc c'est deux pilules que vous prenez 24 heures avant une relation et vous en reprenez une le lendemain et une le surlendemain. Donc ça fonctionne très bien, notamment pour les populations qui ne peuvent pas gérer ou en tout cas négocier le port du préservatif. C'est génial. Et puis c'est surtout qu'on sait que associé au dépistage répété, on va avoir une baisse à terme en fait de des nouvelles infections à VIH.
Et maintenant, donc il n'y a plus besoin d'aller à l'hôpital, on peut se rendre chez son médecin.
Voilà, bon, c'est ça que j'ai oublié effectivement. Merci Mathilde.
C'est ça ce qui a changé au début du mois.
C'est ça, effectivement. Au départ, c'était dans les CEGI, dans les centres gratuits de dépistage, et puis dans les services d'infectiologie à l'hôpital. Donc c'était vraiment très réduit en termes de dispensation. Aujourd'hui, vous pouvez aller en médecine de ville chez votre médecin généraliste qui peut vous le prescrire en primo prescription.
Et vous nous avez parlé de l'importance des centres de santé sexuelle. C'est pour ça que vous organisez un événement depuis hier et c'est jusqu'à demain, un événement culturel sur internet qui s'appelle Faites l'amour et fête, ça s'écrit comme une fête. Vous avez mobilisé 70 artistes qui ont créé des contenus spécifiques pour l'occasion. Il y a quoi par exemple?
Par exemple, on va avoir Isabelle Adjani qui fait une lecture, Fanny Ardant qui la suit derrière. On a Catherine Ringer d'Erita Mitsuko et ça on est très content de l'avoir et merci à elle et merci à tous les artistes qui va nous faire un tour de chant sur Divan du Monde à la Madame Arthur. On a Tristan Lopin qui est un humoriste en train de monter qu'on adore aussi chez nous et on a énormément d'artistes justement qui donnent de leur temps pour cette cause et pour financer justement ces outils comme le centre de santé sexuelle.
Et pour voir tout ça, on se connecte où?
Faitelamour.org, c'est très simple. Alors faitelamour comme vous le disiez, F-E-T-E comme fêter, c'est très facile de connexion et vous retrouvez ça aussi sur les réseaux sociaux.
Et donc c'est payant ou c'est gratuit?
Non, c'est gratuit.
C'est gratuit. Mais après, alors comment vous récoltez de l'argent?
C'est les personnes qui nous donnent leurs dons, elles nous donnent ce qu'elles veulent, donc donnez-nous s'il vous plaît pour qu'on puisse mettre fin à l'épidémie et ça franchement c'est possible et on compte sur vous.
Pour financer un centre de santé sexuelle, vous avez besoin de combien d'argent?
Il nous faudrait 200 000 euros, alors pour le coup franchement c'est totalement réalisable. Si on a plus, effectivement ça permettra d'ouvrir un autre centre également. Et très clairement là on est vraiment sur le terrain, on agit directement auprès des populations les plus vulnérables, donc up to you, c'est grâce à vous qu'on y arrivera.
Et ça s'appelle Faites l'amour. Merci beaucoup.
Merci
Aurélien Bocan, président d'Aide, vous étiez l'invité du 5-7. France Inter.